Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 7, en route pour Paris.
À Beyrouth, l'année après ma philo, il n'y avait vraiment rien à faire. On venait d'ouvrir une école supérieure des lettres, mais qui ne menait pas à grand-chose, enfin qui ne menait à rien qu'on puisse nommer, en tout cas, qui pouvait parfaitement donner un vernis littéraire à ceux qui savaient ce qu'ils allaient faire plus tard, mais qui en aucun cas ne pouvait servir solidement d'aiguillage pour intégrer à la grande machine française, à laquelle de toute façon maintenant il faudrait bien que je m'intègre, quelqu'un qui, comme moi, n'avait aucune idée particulière sur lui-même ni sur ce qu'il voulait faire. Et maman, à grand tort, était persuadée que c'était l'influence des jésuites qu'ils m'avaient travaillé au corps pour m'amener à cela. Ce n'est pas du tout vrai, enfin c'est moi-même, motu proprio, qui m'était mis ça dans la tête comme une espèce de bouffée de ferveur, comme il peut
mystique.
En arriver. Oui, comme ferveur. Mystique, il n'y a pas besoin de déranger la mystique pour cela. Enfin, je veux dire, on voit tout d'un coup la chose en lumineux et en religieux. Et elle a voulu à tout prix me soustraire à l'influence des jésuites, qu'aucune étude solide, en tout cas, à l'extérieur, n'aurait pu contrebalancer, et tempérer et rééquilibrer. Et elle a donc cherché à savoir ce que je pourrais faire en France de solide l'année suivante. Mon frère aîné avait été casé, lui il était parfaitement scientifique. À partir du moment où l'Algérie était redevenue française et gaulliste, il avait pu aller faire hippotaupe à Alger en portant l'uniforme, ce qui était bien commode. Et il avait fait hippotaupe et taupe à Alger et avait été admissible à Polytechnique en 1946. Donc il irait à Saint-Louis, à Paris, à Saint-Louis pour y cuber et y préparer son intégration à Polytechnique. Et la seule chose qui était possible pour moi, c'était d'entrer en Hippocagne. Il n'y avait pas d'autre voie possible. Aller me faire faire du droit, j'étais trop jeune, et il n'y a pas d'école qui permette qu'on soit pensionnaire, enfin, et qu'on soit intégré et surveillé. Je veux dire, comme on ne pouvait pas me laisser freelance sur le trottoir, ni de Paris, ni de Beyrouth, il fallait m'envoyer à Louis-le-Grand en Hippocagne. Et l'idée, c'était de me soustraire aux influences et de me conjuguer nocif. C'était pire que de se faire gamin des rues, parce que gamin des rues, quelques claques auraient réussi à me remettre dans le droit chemin, tandis que dans un chemin supposé être le meilleur de tous les chemins possibles, ça aurait été plus difficile de me remettre dans le droit et le bon chemin, et de me faire trouver vraiment ma voie. Mais personne, ni maman, ni les amis connaissant quand même beaucoup mieux les contextes français, comme on en est tout de même quelques-uns là-bas, ne pouvaient dire comment ces choses-là allaient se passer, et pas davantage mon frère qui était tout à fait dans la filière scientifique. Donc, du grec, eh ben j'en ferais. Une langue supplémentaire, si je ne faisais pas de grec, eh ben on m'en ferait faire. Pour tout ça, on pouvait compter sur ma bonne volonté, mais personne n'avait idée que le niveau que les jésuites m'avaient donné, et selon lequel ils m'avaient fait passer la barrière du bac avec une mention, était le niveau français. Que le latin que j'avais appris toute ma vie était du latin de cuisine ou de sacristie, et non pas du tout un latin cicéronien, et que tout ce que je savais ne me vaudrait rien, mais zéro. Et non pas seulement quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne mieux, mais quelque chose qu'il faudrait que je réapprenne et sur d'autres bases. Les lectures et la littérature, je n'en parle pas. Et maman pensait tout à fait, enfin, qu'elle avait mis au monde un crack, et que ce crack allait caracoler. Et voilà. Et il faut que je dise cela bien clairement. Si on ne veut pas garder à Beyrouth en me surveillant comme on aurait pu me surveiller pendant un an de plus et en tâchant de me mettre à niveau de ce que serait l'accession à Paris, c'était pour me soustraire à ce que mes parents croyaient des influences néfastes alors qu'il n'y avait pas d'influence du tout. C'est moi qui avais inventé ça. Et alors, ça a obligé à rompre complètement avec la stabilité et les habitudes que je m'étais tout de même trouvé, même n'étant pas au vrai niveau à Beyrouth, où j'étais parfaitement chez moi, où j'étais parfaitement heureux, le pays me convenant parfaitement, les camarades que j'y avais me convenant parfaitement, ceux qui étaient du pays eux-mêmes, des Libanais où j'avais beaucoup de copains que j'aimais beaucoup et qui m'aimaient beaucoup, et même quelques Français qui venaient de Smyrne et qui auraient pu être de Smyrne, et même ceux qui étaient enfants de sous-officiers, je m'étais très bien fait à tout ça. Et il a fallu rompre une fois de plus, et rompre alors vraiment pour l'inconnu, parce que aller à Louis le Grand, bon, maman dit... Alors, elle était contente de me savoir brillant et facile et rattrapant vite, en disant à 15 ans et demi, il rattrapera, mais il a 15 ans et demi, donc on peut le mettre en culotte courte. Elle m'a envoyé à Louis le Grand, dans l'internat de Louis le Grand, en culotte courte. Je ne peux pas le dire autrement. J'avais une paire de pantalons longs tout de même, parce qu'il fallait penser à l'hiver, mais elle ne pensait pas du tout que, enfin, dès la rentrée de septembre, ce serait quand même plus convenable si je ne voulais pas marquer de trop grandes différences par rapport à tous les autres, de me mettre en pantalon long tout de suite.
Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'ironique à ce que vous, qui étiez de ceux qui regardaient le bateau s'éloigner, soit coupé comme cela de cette vie.
Mais j'ai beaucoup regardé. Alors là, il y a eu une différence parce que ce départ de Beyrouth, qui était le premier que je faisais, parce que autant de Turquie, on était parti chaque année, et quand ce n'était pas pour la France, c'était pour Smyrne, pour aller ailleurs. Il y a eu beaucoup de bateaux en Turquie. Là, de Beyrouth, c'était la première fois depuis longtemps, puisque le dernier bateau, ça avait été Istanbul pour partir vers la France en 1938. Donc, c'était 8 ans. On était entré en Syrie par le train, ensuite de Syrie au Liban par le train. Je n'avais pas vu la merveilleuse rade de Beyrouth, telle que tous les voyageurs par bateau disaient la découvrir. Les Lamartine, Nerval, qui on voudra. Mais pour la première fois, je partais, et on ne partait pas du quai à Beyrouth. On partait, le bateau n'accostait pas, et il y avait de la houle, et il fallait des barques pour porter les voyageurs et leurs bagages. Ça avait d'ailleurs fait une chose absolument merveilleuse pour la vieille tante Eugénie, quand enfin la sœur de l'oncle Albert, qu'il avait dû laisser derrière lui, un petit peu au bon soin de maman, et que ses petits-enfants, chassés d'Alep autrefois, pour aller faire la guerre en Italie avec les Italiens, voilà, revenaient chercher, et ils revenaient la chercher, et ils avaient rapporté des corsages, des laines angora, des choses à la mode, dans des couleurs à la mode de 45 et 46, et venaient chercher leur vieille grand-mère, et une fois converti l'argent qu'ils avaient trouvé en or pour mieux le ramener, et il fallait le cacher, ils l'avaient caché dans le pli corné du ventre de la vieille dame, qui vivait courbée depuis tellement longtemps qu'elle était vraiment comme une sarigue et qu'elle avait un pli corné. Ils avaient cousu l'or dans une ceinture, lui avaient caché la ceinture dans le pli corné, en pensant que les douaniers n'iraient pas chercher chez une vieille dame comme ça, ce à quoi ils n'avaient pas pensé. C'est qu'effectivement, le bateau ne partait pas du quai et qu'il faudrait amener la grand-mère et eux deux, les petits-fils, jusqu'à la coque du bateau, voilà, et les faire monter par l'échelle. Et là, comme la grand-mère ne pouvait pas faire ça eux-mêmes, c'est les les marins du bateau, les matelots, qui la portaient. Mais ils l'ont portée comme ils auraient porté un paquet ou une valise, dans n'importe quel sens. Ils la portaient en fait la tête en bas et restaient dans la barque. Avant d'embarquer eux-mêmes, les petits-fils disaient « Remettez-la à l'endroit, remettez-la à l'endroit !» parce qu'ils avaient peur que la ceinture et l'or tombent à l'eau. Bon, et moi aussi, je suis parti comme ça, mais donc je n'ai pas vu le bateau décoller du quai, comme je l'avais vu toujours avant cela. Et il n'y avait plus cette façon de s'écarter, mais j'ai continué à regarder, non pas vers l'avant, c'est-à-dire vers une vie nouvelle qui m'attendait, mais à regarder vers l'arrière notamment, enfin, parce que sur le quai, il y avait mes parents, il y avait maman, enfin, épouvantée. À la pensée de me hasarder. Elle n'avait aucune crainte en ce qui concerne mon frère aîné, qui avait été admissible à Polytechnique et qui, mon Dieu, depuis 10 ans déjà, avait la routine de s'en aller, d'être seul et de se débrouiller tout seul au loin et qui avait l'âge requis. Et moi, je veux dire, elle ne pouvait pas ne pas se dire que tout de même je n'avais pas l'âge pour faire ces choses-là et que je partais d'une manière qui était très peu protégé et préservé, puisqu'en plus, je devais aller à Louis-le-Grand. Louis-le-Grand, c'est le quartier latin, j'entends bien, c'est la rue Saint-Jacques, ce n'est pas loin de Saint-Louis, où était mon frère, mais enfin, c'est quand même un autre lycée. Il me verrait les jours de sortie, mais tous les jours où il faudrait être dans l'internat, je serais seul, je veux dire, exposé à tout et hasardé à tout. Alors, elle devait se faire une très bonne opinion, a priori, de l'enseignement français, de la discipline française et de la discipline dans les lycées complètement laïques, parce qu'elle n'a pas peur que je prenne les manières des lycéens français, comme ceux des gamins des rues. En quoi elle avait raison, parce qu'ils étaient tous très bien élevés, qu'il régnerait en France une discipline parfaite qui m'aidera à devenir ce que je suis devenu depuis. Mais moi, je n'en savais rien et elle n'en savait rien. Nous étions là devant l'ouvert, sauf que je continuais à regarder vers l'arrière, parce que c'est là que je continuais à avoir le peu de racines, le peu de sécurité, le peu de certitude que j'avais encore dans l'existence. J'avais 15 ans et 9 mois. Ce qui est peu pour entrer pour affronter à la fois l'hypocagne en termes français et l'internat en termes de laïcité.
Votre camarade Salastetti a développé toute une théorie, mais enfin une esthétique de la brûlure de partage entre deux cultures, entre la culture française qu'il maîtrisait parfaitement et la culture arabe. Vous n'avez pas... Je crois que vous êtes assez hostile à cette vision des choses.
Je ne me contente pas d'être hostile, je suis persuadé que c'est un sophisme, tout simplement. La double culture n'a jamais fait mal à personne et ne crée de déchirure chez personne. Salastetti a fait une merveilleuse carrière, précisément due à cette double culture, et en cumulant les avantages de l'un et celle de l'autre. Je veux dire que jamais sa culture française ne l'a empêché d'être pleinement libanais. Alors que moi, je dois dire, j'ai eu ma culture française et uniquement française dans un pays étranger. J'étais un Français à l'étranger. Lui, il était quelqu'un qui était chez lui, avec en plus une culture qui était une plume de plus à son chapeau. Je dois dire que je ne vois pas où est la déchirure. Ça aurait été une déchirure si le fait d'aimer tellement la France avait dû l'empêcher d'être ambassadeur du Liban. Mais que je sache, ça n'a pas été le cas. Donc je crois qu'il n'y a aucun romantisme, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais eu de romantisme à faire dans cela. J'ai senti, et je peux dire que j'ai senti d'une manière que j'aurais appelée tragique si j'avais été davantage adolescent ou même davantage adulte à ce moment-là, mais il n'est pas de la nature de l'enfance de penser ainsi, mais j'ai senti dans sa réalité la difficulté qu'il y avait d'être un Français indésirable à l'étranger, comme je l'ai senti en Turquie, et comme je l'ai marginalement senti même au Liban, sentant que ça arrivait, comme avec mes montagnards descendus de là-bas. Et là, il y a une déchirure. La déchirure consiste dans le fait qu'on n'est pas chez soi. Mais être chez soi avec un confort de plus ou une arme de plus qui servira dans la carrière, honnêtement, enfin, je ne vois pas d'où peut venir la brûlure, la déchirure, sauf si on veut faire de la littérature avec, ce qui est une autre affaire.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuzz.com/tubeuf.